Voici que nous découvrons une population inconnue, 300 Espagnols, soumettent un empire fort de 20 millions d'habitants. Aucun exploit dans aucun temps n'a pu se comparer à cette conquête. Même la maladie était de notre côté. Les idolâtres mouraient comme des punaises.
Voilà un extrait de ce film, La Controverse de Valladolid, avec la voix de Jean-Louis Trintignant, qui évoque la colonisation du Nouveau Monde et la domination des Amérindiens par les Espagnols. Et aujourd'hui, justement, à la Une de la Science, Héloïse, une étude qui a fait beaucoup de bruit la semaine dernière. On a failli d'ailleurs en parler la semaine dernière.
On a voulu en parler la semaine dernière.
On a eu un problème technique, mais ça y est, nous y revenons.
Nous y sommes. Oui, donc cette étude a été beaucoup reprise par la presse, certainement parce que ses conclusions sont intrigantes. Parce que selon ses auteurs, qui publient donc dans la revue Quaternary Science Reviews, la baisse démographique drastique sur le continent sud-américain, suite à l'arrivée des colons en 1492, serait la principale explication à la petite ère glaciaire, cette période climatique bien connue des scientifiques et des historiens. Mais tous les scientifiques n'adhèrent pas à cette thèse. C'est le cas d'Emmanuel Garnier, qui est en duplex avec nous depuis Perpignan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien du climat, directeur de recherche CNRS. Alors d'abord, un petit rappel pour nous. Qu'est-ce que c'est que cette petite ère glaciaire et quand est-ce qu'elle a eu lieu ?
Alors, nous, historiens, parlons davantage de petit âge glaciaire, sachant donc que le petit âge glaciaire couvre une période comprise entre les années 1320 et le milieu du 19e siècle.
Ah oui, donc ça a duré très longtemps quand même.
Absolument, oui, c'est un phénomène climatique majeur qui a eu un très très fort impact sur les sociétés à l'échelle mondiale.
Et il a fait beaucoup plus froid concrètement, combien de degrés on a perdu à cette période ?
On considère que l'on a perdu entre un demi-degré et un degré, ce qui représente donc des conséquences, notamment en termes de culture, donc de moisson, d'alimentation très très importantes, oui. Et négatives, hein.
Oui. Pourquoi est-ce que les auteurs de cette étude imputent ce petit coup de froid à la mort des Amérindiens ?
Ah, c'est une excellente question, je ne les connais pas. Personnellement, ce sont deux collègues britanniques des universités de Leeds et du University College de Londres. A priori, je pense qu'ils s'inscrivent dans un contexte scientifique particulier, très porté sur l'Amérique du Sud, puisqu'ils utilisent donc ces données et considèrent qu'à elles seules, elles peuvent effectivement démontrer que le petit âge glaciaire serait la conséquence de l'arrivée des Espagnols et du déclin des populations amérindiennes.
Sur quelles données ils se sont basés pour arriver à une conclusion, cette conclusion ?
C'est un peu tout le problème, sur peu de données. Ils le disent eux-mêmes dans l'article, ils disposent de rares informations purement historiques, hein, sachant que l'administration espagnole, puis portugaise, si on raisonne à l'échelle de l'Amérique du Sud, ne commence à établir des recensements, des rapports, des enquêtes qu'après les années 1550 et plus sûrement encore à partir du début du XVIIe siècle, on a peu d'éléments purement historiques. En revanche, ils utilisent massivement, je cite leur article, l'archéologie. Donc l'archéologie a découvert depuis quelques décennies un certain nombre de sites. Ils observent certains phénomènes, notamment un déclin des populations et par conséquent un déclin des espaces ruraux. Et à partir de là, ils extrapolent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils établissent des moyennes. L'effectif total de la population sud-américaine, sachant qu'on a des écarts d'un spécialiste très important. Puis ils appliquent des modèles mathématiques, sans doute empruntés aux agronomes. Ils en déduisent qu'à cette époque, les surfaces agricoles, en raison du déclin démographique, ont contribué, en se fermant sur le plan paysager, avec un phénomène d'enfrichement, à réduire considérablement la teneur en gaz carbonique dans l'atmosphère.
Ce serait la reprise de pouvoir du végétal, là où l'homme s'est éclipsé, en fait.
Oui, alors ce sont des phénomènes historiques très très fréquents, qui sont généralement imputables aux conflits et aux épidémies. Ce qui est le cas pour les Amérindiens.
Alors, est-ce que vous êtes historien du climat, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision mathématique ? Vous la trouvez un peu limitée, c'est ça que vous nous dites ?
Mais vous savez, nous, les historiens, nous sommes les héritiers d'un grand, grand historien qui s'appelait Marc Bloch et qui disait « Attention, l'historien, c'est un ogre. Et cet ogre est toujours en quête de chair humaine. » Et je pense que là, les collègues qui sont des modélisateurs, géographes, mais modélisateurs du climat, ont accordé le primat aux chiffres plutôt qu'à la chair humaine dont parlait Marc Bloch. Plus simplement, leur péché véniel consistera à ne pas avoir contextualisé. Puisque si on les suit bien, le petit âge glaciaire courant 16e, 17e siècle, serait imputable au déclin des populations amérindiennes. Mais il faut savoir que l'Europe, en 1492, au moment où les Espagnols et plus tard les Portugais débarquent en Amérique du Sud, est dans une situation très similaire, c'est-à-dire qu'elle a perdu entre 50 et 90% de sa population en raison de la guerre de 100 ans et de la fameuse peste noire. C'est-à-dire que les conquistadors qui débarquent, qui mettent le pied sur le rivage américain, sont en fait des survivants eux-mêmes.
Est-ce qu'il y a des cas précédents dans l'histoire, Emmanuel Garnier, qui pourraient justement témoigner d'un phénomène identique, c'est-à-dire une baisse de population avec un impact direct sur le refroidissement global ?
Je vous avoue, travailler avec des climatologues depuis une décennie, ouais. Nous n'avons jamais tenté l'expérience parce que quand même, il y a énormément de facteurs aléatoires hein, dans le mode de calcul. Leur démonstration est irréprochable. Hein. Donc, ils calculent, ils estiment la réduction des surfaces agricoles. Ils appliquent donc des modèles de capture du gaz carbonique par les terres enfrichées. Ils en déduisent donc que la teneur diminue. C'est imparable. C'est un peu plus compliqué sur le plan historique parce que, comme je vous l'ai dit, l'Europe connaît une situation similaire. Pourquoi ne pas reproduire leur démarche à l'échelle d'Europe et conclure que le déclin des populations européennes a lui aussi contribué aux petites taches glaciaires ? Avec plusieurs bémols hein, de taille. Le premier, c'est que le petit âge glaciaire débute, comme je vous l'ai dit, au début du XIVe siècle. Hein, les Vikings abandonnent le Groenland autour des années 1350. Et deuxième bémol de taille, il semble faire totalement abstraction de l'activité fluctuante du soleil qui joue un rôle absolument majeur dans le petit âge glaciaire.
Oui, justement, quels sont d'après vous les facteurs plus importants pour expliquer ce changement climatique, si on sait l'expliquer ?
Je pense qu'il y a quand même un relatif consensus tant au niveau de la communauté des climatologues que des historiens du climat, et je citerai mon maître Emmanuel Le Roy-Ladurie, à savoir que la période qui est comprise entre le 14e, 15e siècle et le milieu du 18e siècle sont marqués par une moindre activité solaire, alors qui était observée. Hein, si vous consultez les archives de l'Observatoire de Paris, vous avez les Cassini qui observent, donc jour après jour, une diminution du nombre de ces taches solaires qui ont forcément un impact sur les températures à la surface de la Terre.
Merci beaucoup en tout cas Emmanuel Garnier pour votre éclairage sur cette publication qui a fait pas mal de bruit, il est vrai, et vous étiez en duplex depuis les studios de Radio France à Perpignan. Merci beaucoup à vous Héloïse, on se dit à demain.
À demain Mathieu.
Et en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des chercheurs de la Texas University ont été capables de stimuler la croissance d'orteils amputés chez la souris. Leurs résultats sont publiés dans la revue Nature Communication et sous l'effet de deux protéines, plus de 60% des os du moignon ont formé une couche de cartilage en l'espace de 3 jours seulement. Bien que la méthode ne permette pas de régénérer un orteil complet, elle montre quand même que les cellules d'une plaie d'amputation gardent des informations nécessaires à la reconstruction des tissus, ce qui ouvre des perspectives même lointaine de thérapie pour l'homme. Les kangourous auraient commencé à sauter bien plus tôt que ce que l'on pensait. Des scientifiques de l'université d'Uppsala en Suède ont étudié des os de pattes fossilisées de cousins éloignés de kangourous aujourd'hui disparus. Ces fossiles ont été retrouvés dans le Queensland, au nord-est de l'Australie. Leurs travaux suggèrent que ces animaux ont acquis leur capacité à sauter il y a 20 millions d'années. Le kangourou est le seul grand mammifère qui se déplace en sautant sur ses deux pattes, ce qui en fait un objet de fascination pour les chercheurs. Et puis comment empêcher les moustiques de nous piquer ? Eh bien peut-être en leur coupant l'appétit. Des chercheurs ont nourri des moustiques avec une solution contenant un médicament coupe-faim destiné aux humains. Et cela a fonctionné. Pendant 2 jours, les insectes ont eu nettement moins envie d'approcher un leurre à parfum humain. Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue Cell. Le médicament utilisé cible le récepteur d'un peptide particulier, le neuropeptide Y, impliqué dans la recherche de nourriture. L'équipe a ensuite utilisé l'édition de gènes CRISPR pour créer des moustiques portant une mutation qui empêchait au récepteur de fonctionner normalement.